qui accueillait les enfants en avant, là, c'est beau. Non, c'est beau à voir, sérieux. C'est super. Est-ce que vous permettez que j'enlève mon veston? Oui, vous permettez? Il fait chaud un peu. On a une belle fin de semaine d'automne, hein? C'est magnifique. Ce matin, on s'en venait puis on dit « Wow, la nature est tellement glorieuse. Imaginez le Dieu derrière. » J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Matthieu 7. Matthieu 7. Et puis pour ceux qui nous visitent, je vais changer la source pour montrer mon PowerPoint. Oups. Ah ben oui. Il y a quelqu'un qui a fait du ménage la semaine passée, puis qui a débranché des choses, là. Je sais pas c'est qui. Il faut trouver le coupable. On va parler de ça ce matin.
On va t'avoir un conflit avec.
Là, je pense que je suis pas sur la bonne source. Ça se peut-tu? Bon, OK. J'ai une bonne nouvelle puis une mauvaise. On parle de résoudre les conflits ce matin, mais la mauvaise, c'est qu'il faut que tu vas devoir travailler pour retirer la poutre de ton œil. Ça peut faire mal. Pour avoir retiré des échardes et toutes sortes de choses dans les yeux, je peux vous assurer que ça peut pincer. Fait que Matthieu 7. Versets 1 à 5. Moi, je vais vous le projeter. Et puis, avant de commencer, maintenant, j'ai pris l'habitude de vous dire le punch du message au début. Le punch du message, c'est ça. Fait que si vous voulez juste écrire ça puis partir, vous avez beau. Profitez du beau temps ce matin. C'est ça, la phrase sommaire. Prendre conscience de ses propres fautes et les avouer est une étape fondamentale à la résolution de tout conflit. C'est ça le punch du message ce matin. Fait que ça, vous avez ça en tête, là? Bien, tout le reste va prendre place à l'intérieur de cette phrase sommaire. Ça marche? OK. On est bien parti. On n'a pas de conflit encore. Là, j'ai projeté la version seconde, mais j'aimerais vous le lire dans la version sommaire. Et c'est Jésus qui parle. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés, car vous serez condamnés vous-même de la même manière dont vous aurez condamné, et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère, nous autres on dirait le brin de scie, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment oses-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever cette sciure de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans le tien. » Je peux vous assurer que si j'arrive demain matin avec une poutre dans mon œil pour essayer d'enlever quelque chose, les gens vont s'enfuir. Les gens vont s'enfuir. Hypocrite, ouf! Le Seigneur Jésus, des fois, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Prions. Seigneur Jésus, quel privilège que nous avons ce matin d'être réunis en ta présence, réunis aussi pour entendre ta voix, bon berger. Ta voix qui nous parle à travers tes saintes écritures et par ton Esprit Saint. Seigneur Jésus, bon berger, on veut entendre ta voix ce matin. On repousse en ton nom toutes les autres voix, la voix de ce monde, la voix de notre nature déchue, la voix de Satan. On ne veut qu'entendre ta voix seule, Seigneur Jésus. Esprit Saint, viens, souffle sur nous des quatre vents. Ranime-nous et viens mettre, Seigneur, la vie par ta parole pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Quel privilège que nous avons d'avoir les paroles du Seigneur Jésus devant nous, dans nos mains. cette parole qui est révolutionnaire. Et dans cet enseignement du Seigneur Jésus, nous retrouvons une vérité à la fois très simple, mais très profonde. Très simple, puisque toute personne qui observe un conflit de l'extérieur voit bien qu'il y a des torts des deux côtés. Et qu'il est évident que les deux parties devraient avouer leur faute et se demander pardon. Mais très profonde en même temps, très profond, je dirais, puisque lorsqu'il s'agit de nous-mêmes qui sommes dans ce conflit, nous avons la tendance à voir que les fautes de l'autre et d'être aveugles sur les nôtres. Cet enseignement va de pair avec l'enseignement du Seigneur Jésus sur la prière dans le Notre Père. Hein? Rappelons-nous qu'il a dit, « Pardonne-nous, quoi? Nos offenses. Comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Jésus commence avec les nôtres. Il nous enseigne à demander pardon pour les nôtres en premier. J'aimerais vous lire une petite histoire et beaucoup de ce cours que nous sommes en train de suivre est basé de près ou de loin sur ce livre « Artisan de paix » de Ken Sandy. Je vous rappelle, Ken Sandy est un avocat de formation qui a consacré sa vie au ministère de la résolution des conflits. Et je peux vous dire que, pour l'avoir entendu prêcher en 2012, je crois, ça m'a foudroyé. Ça m'a foudroyé parce qu'il est venu appliquer les principes de la parole de Dieu à toutes sortes de conflits, et ça a été vraiment extraordinaire, révolutionnaire, je dirais, dans ma vie, et on l'espère que ça va être pour vous. Puis, j'aime bien vous raconter des histoires parce que ça nous aide à comprendre. Fait que je vous lis ce récit qui est dans le livre « L'artisan de paix ». Enfin, il avait eu sa chance. Serrant bien fort sa déclaration dans sa main, Marc s'assit au premier rang dans l'église, prêt à en découdre avec les anciens. 6 mois auparavant, ils avaient refusé d'appuyer sa nomination comme pasteur principal. Ils sont restés là sans rien faire lorsque Marc s'était fait calomnier dans une assemblée générale. Le pire de tout, c'est que certains avaient parlé derrière son dos, émettant des doutes quant à ses capacités pour remplacer leur pasteur qui partait en retraite. Après des mois de tensions de plus en plus fortes, les anciens avaient finalement fait appel à une délégation de conciliateurs formés par Peacemakers Ministries, le ministère fondé par M. Sandy. Pendant 2 visites de 3 jours chacune, les conseillers ont enseigné à toute l'Assemblée comment rechercher la paix. Ils ont suscité des discussions personnelles et encouragé Marc et les anciens à être des modèles pour l'Église en reconnaissant chacun ses torts dans le conflit. Mais Marc n'arrivait pas à changer sa manière de penser. Les péchés répétés des anciens étaient plus graves que ses quelques erreurs. Puis, à quelques jours d'une deuxième série de week-ends pour l'Assemblée, les anciens étaient sur le point de confesser publiquement leur faute à l'Assemblée. La déclaration qu'ils avaient préparée n'allait pas aussi loin que ce que Marc et sa femme espéraient. Alors, ils planifièrent de démontrer publiquement les péchés des anciens à leur égard. Quand la réunion commença, l'un des médiateurs prêcha un court sermon sur la réconciliation et expliqua le but et le déroulement prévu de cette réunion. Il donna ensuite la parole au porte-parole des anciens. Lisant une déclaration préparée d'avance, il confessa différents actes qui avaient fait du tort au pasteur Marc. Puis il se tourna vers Marc et Donna, sa femme, et dit, « Nous avons péché contre vous et nous vous avons fait du tort. Nous sommes vraiment désolés. » Il était évident, d'après les larmes qui coulaient sur son visage et de sa voix tremblante, qu'il parlait de tout son cœur. Puis, un autre ancien vint prendre la parole, confessa ses propres péchés et demanda pardon au pasteur associé et à l'Assemblée. Un troisième ancien fit de même. Les conciliateurs avaient pensé que seuls 2 ou 3 anciens parleraient, mais 7 des 9 ont ajouté leur confession personnelle à la déclaration qui avait déjà été faite. Marc luttait avec ses pensées. Il était toujours en colère et blessé. Mais les paroles des anciens avaient creusé une brèche dans le mur qu'il avait construit dans son cœur. Son épouse vit qu'il avait besoin d'un moment pour remettre ses idées en place. Alors, elle se leva et s'approcha du micro. Se tournant vers les anciens, Donna dit, « J'étais venu ce soir pour dire à tout le monde combien vous nous aviez blessés. Mais maintenant, Dieu m'a montré combien j'avais tort. J'ai finalement compris ce que le Seigneur voulait me dire dans 1 Jean 3,15. En m'accrochant à ma haine, je vous ai assassiné dans mon cœur pendant plusieurs mois. Je suis plus coupable que vous ne l'êtes. Je vous pardonne, mais je vous demande de me pardonner. » En revenant à sa place, on pouvait voir sur son visage la liberté qu'elle ressentait. Son amertume avait été balayée. Les pieds de Marc étaient comme mous quand il se leva et s'avança vers le micro. La bataille dans son cœur était arrivée à son apogée. Il pouvait s'accrocher à sa colère et prendre sa revanche, ou il pouvait avoir la liberté en pardonnant et en confessant ses propres fautes. Avec une grande émotion, il réalisa qu'il ne pouvait pas faire les deux. « Aide-moi, Seigneur », pria-t-il silencieusement, alors qu'il s'approchait du micro. Soudain, ses mains s'ouvrirent et ses notes tombèrent à terre. Se tournant pour faire face aux anciens, il parla comme il ne l'avait jamais prévu de le faire ce soir-là. Donna a tort. Je suis la personne la plus coupable dans tout cela. En tant que pasteur associé, j'aurais dû montrer un exemple d'humilité et de soumission. J'aurais dû avoir confiance en Dieu pour œuvrer par les anciens et l'Église pour le choix du nouveau pasteur de cette Église. Mais au lieu de ça, j'ai laissé mon désir d'occuper cette place prendre le dessus et j'ai choisi de le faire à ma manière. Je me suis élevé et je me suis mis sur la défensive lorsque certains ont mis en doute mes capacités. J'étais en colère que des gens parlent derrière mon dos, mais j'ai fait exactement la même chose. Au lieu d'aller vers ceux qui avaient parlé contre moi, je les ai évités et je me suis enfermé dans l'amertume. Mais quand certains m'ont demandé pardon, j'ai refusé de le faire. J'ai misérablement échoué dans mon rôle de pasteur. Et le pire, c'est que j'ai entraîné Donna dans mon amertume. Je demande que Dieu me pardonne et j'espère qu'il vous donnera la grâce de me pardonner. Les anciens se sont levés d'un seul coup, pour embrasser Marc. Ils sont aussi allés chercher Donna. Après quelques instants, une autre voix se fit entendre derrière eux. Deux micros avaient été placés au devant de l'assemblée. Un homme âgé se leva devant eux, voulant aussi partager sa faute. Avant qu'il n'eût fini de parler, une femme se tenait déjà devant l'autre micro, poussée par le Saint-Esprit de trouver la paix par la confession. Puis un autre et un autre confessèrent leurs péchés, leurs calomnies, leur esprit de division et la dureté de leur cœur. Chacun reconnut ses torts et s'accusa soi-même. Après 45 minutes de confession, quand même, un silence tomba sur l'assemblée. Un des médiateurs termina par la prière. Lorsqu'il eut fini, il sentit que Dieu n'en avait pas terminé. Alors il suggéra à chacun qu'il se tourne vers son voisin en disant, « Le Seigneur t'a pardonné de tous tes péchés. » Les gens se partagèrent cette bonne nouvelle, se prirent dans les bras et parlèrent si longtemps que les médiateurs durent s'en aller discrètement. Ils savaient que ces gens étaient entre bonnes mains, les mains de Dieu. Amen. J'aimerais juste réviser rapidement ce matin d'où on est parti. Au départ, on a dit que tout le cours était fondé sur l'œuvre de Christ à la croix et que la Bible dit « Christ est notre paix, lui qui nous a réconciliés avec le Père, d'ennemis qui nous étions et qui a fait la paix entre nous également. » On a vu que la réconciliation est chère au cœur de Dieu. L'Évangile, c'est une histoire de réconciliation entre Dieu et l'être humain. Et ça lui a coûté la vie de son fils. Alors, on ne peut pas être disciple de Jésus-Christ, on ne peut pas être enfant de Jésus et tasser du revers de la main cette notion de la réconciliation. C'est une valeur fondamentale au cœur de Dieu, fondamentale à la vie chrétienne, et c'est l'Évangile sur deux pattes. C'est l'Évangile vécu, la réconciliation, parce que l'Évangile est une histoire de réconciliation. Les conflits sont une occasion pour glorifier Dieu. Et on a vu que souvent, au milieu de l'incendie, si on veut, ou de la tempête du conflit, on oublie complètement Dieu et on réagit spontanément comme ça selon nos réactions naturelles. On oublie de faire appel à Dieu, on oublie pourquoi on existe, pour la gloire de Dieu, et que même au travers d'un conflit, on devrait rechercher la gloire de Dieu. Ça, c'était le premier point, c'était rechercher la gloire de Dieu. Les deux grandes catégories de réactions qui caractérisent les humains face à un conflit dans son état naturel, c'est soit de s'échapper ou soit de monter au front, de combattre. Et Dieu, par contre, est un Dieu de paix qui désire la paix pour nous. Et la réputation de Jésus-Christ est en jeu. À ceux-ci reconnaîtront que vous êtes mon disciple, que vous êtes mes disciples, si vous avez quoi? L'amour les uns pour les autres. Donc, ici, on parle d'un cours sur la résolution de conflits, mais ce n'est pas qu'une technique de résolution. Ce n'est pas juste étape 1, 2, 3, 4. C'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de fondamental à notre vie, comme on disait, et la réputation de Jésus-Christ est en jeu. Donc, c'est fondamental. Ici, le plan du cours en général, donc, on a fait la première étape, rendre gloire à Dieu à travers les conflits, rechercher qu'est-ce qui plairait à Dieu. Comme on a vu la semaine passée, si Jésus, à la fin du conflit, te dirait « Je suis content que tu n'aies pas fait telle affaire », qu'est-ce qu'il te dirait? Et « Je suis content que tu aies fait telle affaire au milieu du conflit », bien c'est ça, c'est de rechercher de plaire à Dieu et rechercher qu'est-ce qui va mettre Dieu en valeur, gloire à Dieu. Là, on est rendu à retirer la poutre de notre œil. Fait que ça, c'est ce qu'on va voir ce matin. On va aller rapidement sur certains points parce qu'on a beaucoup de matériel et on va prendre plus le temps sur d'autres points. Mais nous voilà arrivés à retirer la poutre de notre œil. Je vais juste reculer d'un écran. Puisque, comme nous avons vu, nous avons tous cette fâcheuse tendance de nous focaliser uniquement sur les fautes de l'autre, il nous faut rappeler constamment l'Esprit, l'Évangile de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que M. Sandy explique. Cette vérité incroyable nous révèle nos péchés radicaux. Rien ne pouvait nous sauver sinon la mort du Fils unique de Dieu. Mais elle révèle aussi la profondeur de la miséricorde radicale de Dieu. Il donna son Fils pour mourir à notre place. Alors que nous méditons et que nous réjouissons de l'Évangile de Christ, il se passe deux choses. Un, notre orgueil et notre attitude défensive sont balayés. Nous pouvons oublier l'illusion que nous avons de notre propre justice. Et deux, nous examiner avec sincérité et trouver la liberté de la culpabilité du péché en confessant nos fautes. C'est profond ce qu'il dit ici, là. Puis je veux juste ouvrir une petite parenthèse. Il dit que l'Évangile nous amène à balayer notre orgueil et notre attitude défensive, et oublier l'illusion qu'on a de notre propre justice. Notre propre justice est une illusion. On n'en a pas de justice, vraiment, aux yeux de Dieu. Moi, la semaine passée, dans mes lectures, je ne me rappelle plus où j'étais, mais le Saint-Esprit m'a dit, « Brian, la justice, là, c'est quelque chose que je t'ai donné, et c'est précieux, et tu le transportes dans tes mains. » C'est un cadeau, la justice, que je t'ai donnée. Tu n'as pas de justice propre. Ah, mais dans un conflit, qu'est-ce qui se passe? Ah, bien, moi, j'ai raison, moi, j'ai mes droits, je cherche la justice comme si c'était moi, Dieu, là. Mais la Bible nous dit non. L'Évangile t'enseigne que tu es coupable devant Dieu et que c'est la grâce seule de Dieu qui t'a ramené à la vie et qui t'a déclaré juste. Voyez-vous, plus nous focalisons sur la méchanceté de l'autre, plus nous nous endurcissons dans l'orgueil de s'imaginer que nous sommes justes, que nous sommes meilleurs. Dans l'orgueil, plus on focalise sur les fautes de l'autre, plus on s'élève à nos yeux, dans notre cœur, comme si on était meilleur. Et qu'est-ce qui précède la chute, mes amis, selon la parole de Dieu? L'orgueil. Alors, voyez-vous comment c'est un piège de focaliser sur les fautes des autres. Le fait de retirer la poutre de notre œil n'est pas simplement essentiel à résoudre le conflit, mais d'abord à nous libérer, nous, de notre orgueil et notre culpabilité. Et c'est ça qu'il faut regarder ce matin. Ce matin, là, j'espère que je communique bien, j'espère que vous n'avez pas l'impression que je vous tape sur la tête. Hein? C'est pour notre liberté, c'est pour notre bien qu'on parle de ces choses-là. Et cette confession, cette reconnaissance, cet aveu de nos fautes, ça nous rend capable de servir les autres par l'amour. Hein? Jésus dit, après t'être enlevé la poutre, tu vas être capable de faire quoi? Aider ton frère à enlever la sienne, voyez-vous là? Ça te libère pour aimer et servir l'autre. Si tu enlèves la poutre de ton œil. M. Sandy, dans son livre, il prend le temps de nous aider à nous examiner et nous devrions nous poser la question de quelle façon on pêche dans nos relations entre nous. Puis, je pense que c'est vraiment bien fait ce qu'il a apporté. Alors, c'est ce qu'on va regarder ce matin, entre autres. La première façon qu'on pêche dans nos relations, c'est qu'on oublie la règle d'or. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi la règle d'or? Oui? Aime ton prochain. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent. Matthieu 7, 12, c'est dans le même passage que de ce qu'on vient de lire. Là. Jésus dit, « Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. » Souvent, nous nous disons que nous n'avons rien fait de mal. Peut-être est-ce vrai. Mais avons-nous cherché activement le bien de l'autre? Regardez ce que Jésus dit au bouc qui ne laisse pas entrer dans son royaume, dans Matthieu 25, 11, 46. Je vais juste vous lire rapidement Matthieu 25. Excusez, 31, pardon, 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il se séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. » Maintenant, on ne lira pas tout, mais on va sauter en bas. Ensuite, verset 41. « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi au Seigneur, « Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim ou soif ou étranger, nu, malade, prison, etc., et ne t'avons-nous pas assisté? » Il leur dira, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait, ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait, et ceux-ci iront au châtiment éternel. » Voyez-vous, là, le Seigneur, là, il accuse ces gens-là De faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose? De n'avoir pas fait quelque chose. Mais nous, en tant qu'êtres humains, on s'esquive souvent en disant « ben j'ai rien fait de mal. J'ai rien fait de mal. » Mais le Seigneur Jésus dit, affirme que toute la loi et le prophète reposent sur « aime Dieu et » et ça, ça implique activité. La règle d'or. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc, ce n'est pas les choses mauvaises que Jésus reproche à ces personnes. Regardez ça. C'est de ne pas avoir fait le bien lorsqu'ils avaient l'occasion. On appelle ça des péchés d'omission. L'être humain se cache souvent derrière le paravent de la non-malveillance. Je n'ai pas fait ci ou ça ou l'autre chose. J'ai rien à me reprocher. Ça, on entend ça. Moi, ça, là, ça me siffle dans les oreilles. Quand quelqu'un dit ça, là, j'ai rien à me reprocher, là, c'est comme si, là, la personne est blanche comme le mur, hein? C'est comme si, venez pas me dire que je suis coupable, j'ai rien à me reprocher. Et l'être humain se cache souvent derrière ce paravent de la non-malveillance. Mais les commandements de Dieu sont d'abord, ne sont pas d'abord des interdictions de faire ci ou de faire ça, mais des incitations à aimer en action. Wow! Ça change la donne. Ça change la donne. Très souvent, j'entends la règle d'or être déformée dans le sens négatif. Les gens vont dire, « Ah, c'est fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent. » C'est ça la règle d'or? C'est souvent ça que les gens pensent être la règle d'or. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La règle d'or, c'est « fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent dans la même situation. » Jésus l'a formulé dans le sens positif. Mais l'être humain le déforme dans le sens négatif. Pourquoi? Parce que ça le désengage. J'ai rien fait de mal. J'ai pas fait aux autres ce que je voudrais pas qu'ils me fassent. Fait que je suis correct. Voyez-vous? Fait que la première façon dont on pêche dans nos relations, c'est d'oublier la règle d'or. C'est d'oublier de rechercher le bien de l'autre. De se concentrer sur nos propres besoins, nos propres biens, notre propre bien. Deuxièmement, M. Sandy dit, et je pense que ce ne sera pas une surprise, c'est qu'on utilise notre langue comme une arme. Dans cette catégorie-là, on peut mentionner des paroles blessantes. Des paroles blessantes, soit intentionnellement, ou des paroles dites à la légère qui vont blesser d'autres personnes. Comme nous dit dans Proverbe 13:3, « Tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison. » Qu'il ne sorte de votre bouche, dit Paul dans Éphésiens 4, 29, aucune parole malsaine, le sens de ce mot-là veut dire pourri. Une parole pourrie. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est comme si nos paroles pourrites, c'est comme la malbouffe, là. C'est comme la nourriture qui est pourrite, qui est infectée, tu viendrais servir ça à des invités, là. La nourriture, ça va les rendre quoi? Ça va le rendre malade. Et on sait que c'est ça qu'il veut dire, parce que le contraire, c'est qu'il dit, mais plutôt une parole qui édifie, qui construit, qui communique une grâce. Fait que les paroles blessantes vont souvent causer du tort dans nos relations. Les paroles vaines aussi. Paul dit à Timothée, « Écarte les discours vides et profanes, contraires à la foi, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété. » Des plaintes. Le fait de se plaindre. Le fait de se plaindre, c'est le contraire de la reconnaissance. Et ça constitue un péché grave aux yeux de Dieu. Les plaintes. C'est pour ce péché répété que Dieu a exercé son jugement sur une bonne partie de son peuple qui tomba dans le désert. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10:10, « Ne vous plaignez pas de votre sort comme certains d'entre eux, en parlant du peuple d'Israël dans le désert, qui tombèrent sous les coups de l'ange exterminateur. » Le tout premier pas mentionné par Paul dans la description qu'il fait de la descente aux enfers de l'humanité, savez-vous c'est quoi dans Romains 1? C'est qu'ayant connu Dieu, ils ont refusé de lui rendre honneur et de lui exprimer quoi? Leur reconnaissance. Et je le répète, les plaintes sont aux antipodes de la reconnaissance. C'est grave, car à Dieu, nous devons tout. Lorsqu'on se plaint, lorsque vous vous plaignez, non seulement vous commettez un péché fondamental contre Dieu, mais vous détournez aussi les autres de reconnaître ses bontés et vous les incitez à la révolte. Wow! Et tu parles de causer des conflits? Voilà une excellente recette, n'est-ce pas? Parole blessante, parole vaine, plainte, parole fausse. Mensonge, exagération, vérité déformée, demi-vérité pour mettre l'accent sur notre propre bonté ou les faits qui nous sont favorables et minimiser ceux qui nous opposent. Hein? Moi, en tout cas, j'ai dû faire ça dans ma vie. C'est comme ajouter du carburant au feu. Non seulement sommes-nous en train de pécher, mais nous sommes en train d'imiter l'ennemi de Dieu, qui est menteur depuis le début, et nous faisons son œuvre pour lui. C'est grave, mes frères et sœurs, c'est grave ce que nous faisons avec notre langue. Hein? Jacques nous dit que la langue est située dans un corps, un petit membre, mais qui est allumé de quoi? Les feux de l'enfer. Commérage, c'est de rapporter gratuitement des faits sur les autres dans le but soit de se faire aimer, de se faire respecter, de s'élever. Ce n'est pas parce que la chose est vraie qu'il faut la répandre. Proverbe 16, 28, « L'homme pervers suscite des querelles, le rapporteur divise les amis. » Le rapporteur, celui qui rapporte les faits sur les autres. As-tu vu ce qu'il a fait? As-tu vu ce qu'elle a fait? Ça, c'est rapporter, même si c'est vrai. Faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle se calme, nous dit Proverbe 26, 20. Commérage. Son cousin propre, calomnie ou la médisance, cela implique des faussetés et des paroles malveillantes envers quelqu'un, c'est très, très grave. C'est l'équivalent d'accuser faussement quelqu'un, mais derrière son dos en plus. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 3, il dit de s'éloigner de toute personne qui calomnie les autres et qui ne veut pas s'en détourner. Encore une fois, calomniateur, ou synonyme accusateur, est un titre qui est donné à Satan lui-même, qui cherche par ses accusations faussées de détruire la vie des gens. Calomnie. Alors, comme si ce n'était pas assez comme cause de conflit, qu'est-ce qu'on a encore? Le désir de contrôler les autres. Toute tentative pour contrôler les autres afin de servir nos propres intérêts, arriver à nos fins, augmenter nos profits, notre influence, notre réputation, notre propre satisfaction, bien, on n'a jamais fait ça. Hein? On n'a jamais fait ça, même dans l'Église. Non, 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 pas dans l'Église. Mais c'est une cause importante de conflit et, évidemment, un péché. Pourquoi c'est un péché de vouloir contrôler les autres? C'est ça? Tu te places au-dessus des autres? Tu te prends pour Dieu? OK. Tu mets ta confiance dans ton pouvoir, dans tes capacités pour faire arriver quelque chose? Oui, déjà là, on voit un orgueil, oui?
Tu peux mettre les gens dans le doute,
parfait, par tes actions, exactement, c'est ça. Tu te perds toi-même? Tu te sers toi-même. Oui, toutes des bonnes réponses. Et Dieu n'est pas dans le décor, effectivement. Lorsque nous refusons de respecter les décisions des autres et nous persistons à les manipuler, à les persuader, à les forcer à faire ce qu'on veut faire ou ce qu'on pense, ce qui serait bien de faire, c'est le contraire de l'amour. C'est le contraire de l'amour. Et on a vu au début, l'amour est tenu en première position aux yeux de Dieu. Il s'attend de nous l'amour. En premier, en tout premier, là. La règle d'or. L'amour n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Écoutez, il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas quoi? Son propre intérêt. Oh, oh! C'est grave. C'est grave, contrôler les autres. C'est un péché. Ensuite, comme si ce n'était pas assez, ne pas tenir notre parole. L'échec à respecter son engagement, que ce soit marital ou autre. L'engagement est une chose très sérieuse aux yeux de Dieu. Dieu, comme on le dit souvent, est un Dieu qui s'engage. Il s'engage. Et quand il s'engage, il tient son engagement. Et il s'attend à ce que les êtres humains, et en plus, d'autant plus ses enfants, que lorsqu'ils s'engagent, ils tiennent leur engagement. Dieu prend ça très au sérieux. On pourrait faire toute une série juste là-dessus. Là. Il y a des passages par les dizaines là-dessus dans la Bible. On ne s'étalera pas là-dessus ce matin, mais c'est un point qui est très important aux yeux de Dieu. Et quand on ne respecte pas notre parole, on ne respecte pas notre engagement, ça devient une source de conflit. Une source de conflit. Ensuite, rapidement, encore là, ne pas respecter les autorités, on a déjà enseigné là-dessus beaucoup. Romains 13, je ne m'étalerai pas là-dessus ce matin, ce n'est pas le but. Mais si on ne respecte pas les autorités, qu'est-ce qui va arriver? Souvent, c'est le conflit, parce qu'il y a de la révolte dans notre cœur. Pourquoi qu'il y a de la révolte? Bien, il y a toutes sortes de raisons. Et ça, il faut visiter ça. Mais c'est des causes de conflit. Et finalement, servir ses désirs égoïstes. Alors là, je vous invite à venir la semaine prochaine, parce que Robert va parler d'où viennent les conflits. Et ça va être question de ça. OK? Donc, juste comme un survol rapide des causes potentielles de conflits entre nous qui dépendent de notre attitude, nos paroles, nos actions. Il y a d'autres sources de conflits, des malentendus, simplement, sans qu'il y ait de mauvaises intentions, de mauvaises actions, des malentendus sont souvent des sources de conflits. Mais on n'ira pas en détail là-dessus. Bon, deuxièmement, on parle, quelle est la nature de la vraie repentance selon Dieu? On parle de retirer la poutre de notre œil. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie s'examiner, puis on peut prendre la liste qu'on vient de voir pour s'examiner, mais après, il faut avouer et s'en détourner. La repentance, premièrement, selon la parole de Dieu, est un don de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit. 2 Timothée 2, 24, 26, nous lisons, Paul exhorte Timothée à ne pas avoir de querelle. Il dit, car le serviteur du Seigneur ne devrait pas avoir de querelle, il doit au contraire être affable ou aimable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance, écoutez bien ça, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Dieu leur accordera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Dans Jean 16, 8 aussi, le Seigneur Jésus parle de la repentance. Il dit ceci. Il parle de s'en aller, mais il dit, je vous dis, c'est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, le Consolateur ne viendra pas. Si je m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, c'est quoi son œuvre? Le Saint-Esprit? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. L'être humain, de lui-même, Étant donné, depuis la chute, depuis le jour où ce que l'humanité s'est détournée de Dieu, il s'est mis dans une position d'orgueil. Il s'est élevé lui-même en Dieu. Et, comme j'ai dit, il a cette fâcheuse nature de ne pas vouloir reconnaître ses torts, d'être aveugle à ses torts. Et là, la Bible nous dit que de se repentir, c'est l'œuvre du Saint-Esprit et que c'est un don de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Et ça veut dire, mes chers amis, que la repentance, il ne faut pas la prendre pour acquis. C'est sérieux. J'ai déjà entendu dire qu'un homme avait déclaré, un homme dans une église, « Je sais que c'est péché, mais je vais le faire pareil et je m'en repentirai après. » Wouh! Il parlait d'aller avoir une relation avec une femme hors mariage. « Je sais que c'est péché. » Les anciens l'avaient rencontré. « Frère, il ne faut pas que tu fasses ça. Tu t'en vas dans le péché. Je sais que c'est péché, mais je vais le faire pareil. Je m'en repentirai après. » Quelle folie! Si tu sais que ces péchés-là, là, et que tu le fais quand même, c'est que tu n'es déjà pas repentant. Et crois-tu que lorsque tu seras endurci dans le péché, que tu auras plus le goût de t'en détourner? Si tu sais déjà ces péchés, tu ne veux pas t'en repentir. Après t'avoir endurci dans le péché, est-ce que tu auras encore plus le goût de te repentir? C'est de la folie! Et si tu résistes déjà à l'œuvre de l'Esprit qui veut t'amener à la repentance et que tu l'éteins, n'est-ce pas de la présomption de penser qu'il reviendra à ton heure à toi? On ne se moque pas de Dieu, mes amis. On ne se moque pas de Dieu. C'est grave. Et de plus, cela ne vient pas de toi. Je vais m'en repentir. Ah oui, OK. J'aimerais voir ça. Ça ne vient pas de toi. C'est un don. Dans Actes 11, 18, alors que Pierre raconte aux anciens et aux apôtres à Jérusalem ce qui s'est passé dans la maison de Corneille, ils disent, ben OK, comme ça, Dieu a accordé la repentance aux païens. Dieu a accordé la repentance aussi aux païens dans Actes 11, 18. Donc, le premier point à retenir, c'est que la nature de la vraie repentance de Dieu, c'est que c'est une œuvre spirituelle de l'Esprit Saint et c'est un don. Et si, comme la parole de Dieu dit ce matin, tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Oui. C'est une bénédiction. C'est quelque chose de bon pour nous. On a peur. Oui. 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 C'est la libération que Dieu veut pour nous. Amen. Amen, ma sœur. Effectivement, c'est bon pour nous. C'est bon. Dieu cherche la bonté, notre bien. Deuxième point, il y a deux sortes de tristesse. 2 Corinthiens 7, 9 à 10, Paul dit ceci. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Il y a beaucoup de contrefaçons à la vraie repentance, les amis. La contrefaçon de la vraie repentance. On peut avoir des regrets, ce n'est pas la repentance. On peut avoir des remords, ce n'est pas la repentance. Et on peut avoir la tristesse, et ce n'est pas nécessairement la repentance. La tristesse selon le monde, c'est qu'on se sent mal parce qu'on nous a surpris en train de faire quelque chose de mal. Ou parce qu'on souffre des conséquences de nos mauvaises actions. perte d'amis, divorce, perte financière, réputation endommagée, relation avec enfants hypothéqués. On est triste par rapport aux conséquences ou par rapport d'avoir été découvert puis on perd la face. Mais lorsque cette tristesse-là s'en va, si elle s'en va, la personne recommence à agir comme avant, et c'est pour ça qu'il dit que cette tristesse-là mène à la mort. Ou, si la tristesse ne s'en va pas, la personne s'enfonce dans sa tristesse, s'enfonce dans la dépression, sous le poids de sa culpabilité, mais refuse toujours de retourner ses regards vers Jésus pour avoir le pardon. Wow! L'orgueil du cœur humain peut aller jusque-là. Jusque-là, les amis. Tu refuses, tu t'écrases sous la culpabilité de ton péché et tu vas en mourir. Et tu refuses toujours de lever les yeux. Vous vous rappelez l'histoire de Nebuchadnezzar? Le plus grand roi de tous les temps, le plus riche, le plus intelligent, le plus fort de tous les temps. Et là, Dieu a dit, OK, tu te prends pour un dieu. Et tu vas te ramasser comme un animal à brouter l'herbe. Et c'est marqué que dans son témoignage après, il dit, après, je crois, c'est 3 ans et demi? 7 ans? 7 ans? Il dit, je leva les yeux vers les cieux. Oh, wow! Wow! Il y a beaucoup de gens qui sont par terre, qui souffrent, qui sont mourants, qui refusent de regarder vers Dieu, qui refusent de lever les yeux. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui a dit, « OK, je te relève. » Par contre, la tristesse selon Dieu constitue une prise de conscience qu'on a péché d'abord et avant tout contre Dieu. Hein? L'histoire du fils prodigue, hein? Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il dit à son père? « Père, j'ai péché contre les cieux et contre toi, contre Dieu. » Un péché, c'est toujours d'abord envers Dieu, toujours. Parce que c'est lui le maître de l'univers, c'est lui qui a établi les règles. Et quand on brise ses règles, quand on brise ses commandements, c'est toujours envers lui en premier. C'est une prise de conscience qu'on a péché d'abord et avant tout contre Dieu, celui à qui nous devons tout, même notre souffle. C'est d'éprouver un sincère regret de l'avoir offensé et l'acceptation qu'on mérite son jugement par conséquence. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont sous le coup du jugement de Dieu. Sans exception. Et si vous avez des gens qui se réclament du Seigneur Jésus, qui disent qu'ils croient au Seigneur Jésus, mais tu demandes, « OK, le Seigneur Jésus, il t'a sauvé de quoi? Il t'a sauvé de quoi, au juste? Ah, oh, ben j'avais une vie en désordre, tout ça, puis Jésus, je suis venu au Jésus, Jésus a mis de l'ordre. OK, attends un peu, là. Le salut en Christ, là, ce n'est pas d'abord et avant tout pour avoir une meilleure vie. Mais c'est parce que tu étais sous le coup de la condamnation de Dieu. Jésus dit qu'il va avoir un jour de jugement et que tous méritent la mort. Et s'il n'y a pas cette prise de conscience-là, il n'y a pas de salut. La mort de Jésus-Christ à la croix, c'était pour te délivrer toi du jugement éternel de Dieu. C'est ça la vraie histoire. C'est ça le vrai évangile. Et s'il n'y a pas d'acceptation que je mérite le jugement de Dieu, il n'y a pas de réelle repentance et il n'y a pas de réel salut. Nous nous mettons d'accord avec l'évaluation de Dieu sur notre état et nos actions. Il n'y a pas de désir de s'esquiver, là. Mais un réel désir d'être pardonné et restauré dans la relation avec Dieu. La repentance signifie littéralement un changement de mentalité, de regard sur notre façon de penser et d'agir, de sorte que nous faisons demi-tour. La repentance est le premier fruit de tout disciple et précède la foi au salut. Jean-Baptiste allait prêchant la repentance et Jésus allait prêchant la repentance et la foi au salut. Cette repentance conduit toujours à un changement radical du comportement, un 180. Mais, en bon humain que nous sommes, ben, nous avons développé des tactiques pour s'esquiver à la repentance. Parce que la plupart d'entre nous, je dirais la totalité, n'aimons pas admettre que nous avons péché, comme notre sœur disait. Ah donc, nous adoptons des techniques pour s'esquiver. Tendance à dissimuler, ça veut dire cacher. Renier, ça veut dire non, je n'ai pas fait ça. Ou rationaliser nos fautes. Bien, j'ai fait ça, oui, mais c'est parce qu'il m'a obligé de faire ça. Je n'avais pas le choix. Les prisons sont remplies de gens qui disent, oui, j'ai fait ça, mais je n'avais pas le choix. Vous allez entendre ça? Allez visiter quelqu'un en prison. Oui, j'ai fait ça, mais je n'avais pas le choix. C'est lui qui m'a forcé de faire ça. Ah oui, OK. Puis l'autre, il dit le pareil, hein, en passant. Je n'avais pas le choix. Ça, c'est rationaliser. J'avais raison. Si nous ne pouvons pas cacher entièrement notre péché, nous avons tendance à minimiser notre péché en disant que ce n'est qu'une faute ou une erreur de jugement. Hein. Il n'y a personne de parfait. Hein. Une autre manière de fuir la responsabilité de nos péchés est de blâmer les autres, de dire que c'est à cause d'eux que nous avons agi de cette manière-là. Ou encore, dans notre tête, nous négocions dans notre tête sur le pourcentage de responsabilité que nous avons. Et puisque c'est toujours l'autre qui a la grosse part de la faute, bien, nous minimisons la nôtre. Ou encore, j'ai réalisé, c'est le Seigneur qui m'a montré ça, qu'on a souvent la stratégie du match nul. La stratégie du match nul, là, ça veut dire que, OK, moi j'ai péché, mais toi aussi t'as péché. Fait que les péchés s'annulent. C'est match nul. J'ai pas besoin de confesser, j'ai pas besoin de me repentir parce que oui, j'ai péché, mais toi aussi t'as péché. Non, mais c'est vrai. On fait ça. C'est comme un match de tennis, là. OK. T'as scoré un point, mais moi aussi, j'ai scoré un point, garde. Hein? Puis là, ça monte en escalade. La stratégie du match nul. Je m'esquive à la nécessité d'avouer, de me repentir de mes fautes parce que les autres, bien, ces péchés annulent les miens. Est-ce que les péchés de l'autre annulent réellement les tiens? Qu'est-ce qui peut seul enlever les péchés? Le sang de Christ. Mais pour que le sang de Christ soit appliqué à ton cœur, il faut que tu avoues et que tu renonces à ton péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous, nous dit l'apôtre Jean, 1 Jean 1:8. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve la compassion, Proverbe 28, 13. Alors comment y arriver? On a vu de quelle façon on cause des conflits. On a vu c'est quoi la vraie repentance. Comment y arriver? Bien, premièrement, il faut demander à Dieu de nous éclairer, comme on a vu. La repentance, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de son esprit. On n'y arrive pas seul. On n'y arrive pas seul. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur, dit David dans le psaume 26. Écoutez la raison qu'il donne. Car la grâce est devant mes yeux. Voyez là, c'est ce que Lourdes disait. Il demande à Dieu. C'est une folie, là. C'est une folie. Pourquoi tu demandes ça à Dieu, David, là? Fais pas ça. Voyons. Sonde-moi, oh Dieu, éprouve-moi. Ben voyons, David, fais pas ça. Il va te montrer plein d'affaires. Ça va t'écraser. Non, non, parce qu'il dit, la grâce est devant mes yeux. Ah, ah, la grâce, la liberté, la vie. Et je marcherai dans la vérité. Qui connaît ses égarements, nous dit encore le psaume 19, 13. Pardonne-moi ceux que j'ignore. Hein? Puis on a d'autres passages. Sonde-moi, ô Dieu. Voici, je suis sur une mauvaise voie. Hein? Instruis-moi. Sonde-moi. La première chose à faire, c'est de demander à Dieu de t'éclairer en priant, en étudiant la parole sincèrement. L'Esprit fera son œuvre en toi pour te montrer là où tu as offensé Dieu et l'autre. C'est pas facile. C'est pas facile. Ça fait mal. Oui.
On est loin,
oui. Excellent point. Donc, si je répète ce que Lourdes dit, oui, c'est ça, mais le problème, c'est qu'on est tellement aveugle et on est tellement dans l'orgueil qu'on ne veut pas demander à Dieu de faire ça. Et c'est pourquoi la deuxième façon d'y arriver, c'est de demander la perspective de quelqu'un d'autre. Souvent, je demande à mon épouse, dans telle situation, est-ce que j'ai mal agi? Est-ce que j'ai manqué de patience? Est-ce que j'ai été irritable? Est-ce que j'ai dit, faites quelque chose qui a pu blesser quelqu'un? Demande la perspective de quelqu'un mature spirituellement et neutre. Et justement, parce que nous sommes aveugles. Puisque le cœur de l'être humain est tortueux et orgueilleux, on doit s'admettre que nous ne sommes pas objectifs dans notre évaluation de nous-mêmes. Demander la perspective d'un ami ou d'un pasteur mature n'est pas confortable, mais peut nous donner une vision plus claire de la situation. La voie de l'insensé est droite à ses yeux, nous dit Proverbe 12:15, mais celui qui écoute les conseils est sage. Celui qui écoute, ça veut dire qu'il cherche les conseils, est sage. Mais l'insensé, tout est droite à ses yeux. J'ai rien fait de mal. C'est insensé de penser comme ça. Insensé. Et finalement, bien, engage-toi à collaborer avec le Saint-Esprit pour être transformé à la ressemblance de Christ. Si quelqu'un, donc, se purifie du péché, il sera un vase d'un usage noble, un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Prions. Père trois fois saint, seul tu es saint, seul tu es juste. Pardonne-moi notre folie, Seigneur, de penser que nous sommes justes en nous-mêmes, de penser que nous sommes saints en nous-mêmes. Merci pour ta parole, Seigneur. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, une lumière qui est inconfortable par moments, mais une lumière qui apporte la vie également, la vie et la liberté, car la grâce, ta grâce est devant nos yeux. Tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en grâce. Seigneur, on veut t'avouer notre aveuglement, on veut t'avouer notre orgueil. On veut te confesser notre résistance ce matin à l'œuvre de ton esprit. Et on veut te remercier pour le sang de Christ qui nous lave de tout péché. Merci Seigneur Jésus. Merci d'avoir pris sur toi toutes mes fautes. Et si ce matin tu n'as jamais Faites cette prière. Fais-le dans ton cœur. Seigneur Jésus, je suis pécheur. Je mérite le jugement éternel. Ta mort sur la croix prouve que le péché, c'est grave. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir pris mon jugement sur toi à la croix. Je veux être à toi. Je veux vivre avec toi. Viens me sauver. Viens me pardonner. Viens me donner cette nouvelle vie. Pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen.